Bon, on va commencer à la table carrée plutôt. En fait, le sujet est la dénomination, enfin, comment utiliser le terme religion dans le contexte chinois. Je me souviens qu'il y a 2 ans, quand j'étais en Cambridge avec Adam, et une fois Adam m'a dit et aussi a dit à ses élèves, il y a 2 questions les pires à poser. Première question, quelle est la différence entre la sociologie et l'anthropologie? Deuxième question, qu'est-ce que la religion? Alors, malheureusement, on m'a toujours posé ces 2 questions. Je dois toujours...
Là, on a 10 minutes pour passer la
fin. OK. Bon, comme vous le savez bien, la religion, enfin, religion en termes occidentaux, ça n'existait pas en Chine. Ça a été introduit en Chine vers fin du 19e siècle à travers la traduction japonaise. Mais ces 2 caractères, même ce thème existait dans le bouddhisme chinois. La traduction chinoise par les Japonais existait dans le bouddhisme chinois. Zhongjiao, zhong, c'est l'école, donc c'est plutôt les pratiques spécifiques de certaines écoles bouddhistes. Et Jiao, c'est l'enseignement de Bouddha. Donc ensemble, c'est-à-dire que ça veut dire que le bouddhisme et les Japonais utilisent ce terme pour traduire religion. Donc, zhongjiao, religion en Chine, réfère à un système religieux spécialisé et institutionnalisé, souvent conçu sur le modèle christianisme. Donc ce n'est pas un terme neutre, puisque comme Vincent l'a bien étudié, il y a derrière ce mot, il y a toute une charge d'idéologie concernant les relations entre la religion et la société, entre la politique et la religion, etc. Et puis en prenant ce terme, ce néologisme, les Chinois commencent à également prendre tout l'ensemble de ces idéologies. Mais malgré tout cela, moi je crois qu'on peut quand même penser les phénomènes religieux avec ce thème religion pour 2 raisons. Premièrement, maintenant religion est déjà devenu un terme chinois au fil des interprétations intellectuelles et politiques dont il a fait objet dans le contexte de la modernisation de la Chine. Ce néologisme a accompagné les bouleversements du paysage religieux de la Chine au XXe siècle. Donc nous ne pouvons pas comprendre les représentations religieuses des Chinois d'aujourd'hui sans tenir compte de l'influence du concept occidental de la religion en Chine. Par exemple, quand vous allez en Chine, on peut vous dire « qu'est-ce que vous faites là ?» Moi, je fais des mi-xin. Mi-xin, c'est la superstition qui est conçue comme l'opposé de la religion. Mais en fait, derrière là, vous voyez, les pratiquants, ils approprient l'idéologie de ce terme. Et deuxièmement, il est nécessaire parce que c'est de la distance entre les concepts indigènes, émiques, et les concepts de l'observateur éthique que les chercheurs peuvent espérer tirer leur capacité scientifique de rupture avec les prénotions. N'est-ce pas? Autrement dit, avec les faits religieux chinois, on peut essayer de mieux comprendre qu'est-ce que la religion en général. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore quelques minutes pour... Oui. Bien que dans l'histoire chinoise, il n'existait pas une notion générale pour la religion, mais en Chine, on peut trouver énormément des phénomènes religieux dans leur complexité, dans leur diversité. Donc, la sociologie comme l'anthropologie qui se sont privilégièrement sur des faits monopoïstes et des faits des religions tribales ont souvent eu des mal pour bien comprendre la religion chinoise. Et donc, la première impression marquante pour un observateur dans le terrain chinois est la diversité la diversité des faits religieux en Chine. Comme ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a tant de divinités, tant de manières, de pratiques, et il y a des différentes organisations, etc. Donc, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qu'on peut nommer comme la religion chinoise, la religion chinoise? Et dans les études sinologiques, il y a toute une tradition pour chercher l'unité, pour chercher de bien comprendre l'ensemble de ces phénomènes, déjà de Kohut et Marcel Kahane, on commence à essayer de définir le système religieux chinois ou bien la religion chinoise. Maurice Friedman, l'anthropologue américain, prend également la religion chinoise comme un ensemble. Et Vincent, si je me permets de le dire, est également dans cette excellente tradition en disant qu'il existe bien une religion chinoise qui est sans nom, sans institution, mais il existe et qui est partagée par toutes sortes de communautés chinoises. Et au-dessus, il y a des trois traditions de perfection individuelle, institutionnalisée, qui sont compris par nous comme le bouddhisme, taoïsme et confucianisme. Voilà. Et donc, s'il existe une sorte de unité, moi je crois que la question est plutôt celle-ci. Comment l'unité et la diversité s'imbriquent l'une dans l'autre? Ou quels liens se tissent entre l'unité et la diversité? Pareil, donc, pour résoudre ces questions, on a des approches différentes. L'anthropologue américain Arthur Worth a proposé de distinguer les élites et les paysans. Il a dit qu'il y a une lacune entre les religions des élites et les religions des paysans. Robert Weller essaie de comprendre cette implication en disant qu'il existe des styles divers pour l'interpréter l'unité. Il y a des croisements entre les différentes interprétations et les différents groupes sociaux. Et notre cher collègue Joël Doraval a également distingué la religion chinoise et la religion occidentale soulignant que en fait, la relation entre les laïcs et les spécialistes religieux, les personnels religieux en Chine sont différentes, puisqu'en Chine, il n'y a que des clercs bouddhistes, taoïstes, qui se distinguent bien des autres religieux. Et pour les laïcs, en fonction des occasions et des demandes, ils se dirigent vers différents religieux pour répondre à leurs besoins religieux. Et Vincent a également proposé de distinguer des religions volontaires et obligatoires. Obligatoires, c'est-à-dire que quand on est né dans une société, on est un peu obligé de pratiquer les cultes locaux, le culte des ancêtres, mais il y a également des religions à votre disposition pour à votre choix, telles que le bouddhisme ou bien le taoïsme plus ou moins institutionnalisé. Et Adam a également proposé sa fameuse modalité de Douyin religion, 5 modalités pour faire la religion. Je crois que tout le monde le connaît maintenant dans cette salle. nous pouvons bien entendu voir toutes ces 5 modalités dans les exposés d'aujourd'hui. Hein. Pour mon cas, le Sinling Famen, c'est une sorte de pratique immédiate, practical, qui a pour l'objectif d'avoir le résultat, l'effet pour changer son destin. Voilà, donc vous voyez, l'utilisation du terme religion dans les études chinoises est très productive. J'ai essayé de monter un peu dans l'histoire, dans la discipline, pour ouvrir le débat. Ah, c'est à vous.
Vas-y.
Bon, j'ai quelques remarques, mais vas-y.
J'y vais.
Alors, j'y vais. Mais elles vont être très simples, elles vont être très rapides. Tu vois, tu disais, il y a deux questions qui sont difficiles. Et en fait, tu viens de répondre à la première sans t'en rendre compte. Lorsque tu parles de la question hémiéthique, c'est-à-dire l'enjeu épistémologique de la traduction, tu es anthropologue. Et lorsque tu parles de la rupture avec les prénotions, tu es sociologue. En fait. Si c'est comme ça. Non, je simplifie, Martine, simplifie. Ce sont des casquettes interchangeables selon le projet. Et j'aime bien les liens épistémologiques que tu essaies de tisser. Là, toute la question, c'est l'ontologie, c'est-à-dire quelle est la réalité d'une unité. Est-ce qu'elle est créée par le chercheur ou est-ce qu'elle est consciente aux acteurs qui pratiquent ces traditions? Je regrette que la notion de culte qui apparaît aussi régulièrement dans la description des choses empiriques ne soit pas aussi discutée que celle de religion parce qu'elle me semble aussi importante. Et il y a dans plein d'autres langues, culte ça veut dire quelque chose, religion c'est un peu plus abstrait. Donc sur les niveaux, effectivement tu as tout à fait raison d'avoir rappelé ça, d'avoir rappelé aussi que la conception occidentale qui a colonisé les sciences des religions appliquées, le répertoire des sciences des religions appliquées au domaine asiatique est une conception différentialiste, c'est-à-dire religion, c'est tout ce qui n'est pas le culturel, le politique, l'économique, etc. Donc c'est la création d'une catégorie séparée d'activités, séparée dans le domaine de la vie sociale et psychique. Et donc, il y a nécessairement quelque chose qui est de l'ordre de la rupture, là où la réalité chinoise, mais aussi indienne, pourrait-on dire, et d'autres, réintègre de l'unité qui est, voilà, qui n'est pas tributaire de cette histoire. De cette histoire idéologique. Je te rejoins aussi également sur, et ce sera le dernier point, sur la question du niveau d'interprétation, c'est-à-dire les logiques au niveau des institutions, des traditions, des clercs vont défendre certaines identités d'une tradition en disant nous sommes les détenteurs de textes, nous sommes les détenteurs de symboles, de croyances, de divinités qu'ils inscrivent dans une généalogie longue. Évidemment, pour les usagers ou pour les simples laïcs, la référence n'est pas la même, la réalité n'est pas la même. Donc, réintroduisons de l'anthropologie, elle est déjà là, hein, même si la discipline n'a pas à défendre quelques frontières que ce soit. Ce caractère, rendons aux acteurs leur propre perception de ce que c'est la religion et de superbes liens donc, épistémologiques entre nos questionnements de chercheurs, mais aussi la réalité vécue par les acteurs sur le terrain. Voilà ce que je pouvais en dire en deux, trois choses. Je ne sais pas de quel côté
Juste une réaction à ce que tu viens de dire, Lionel. C'est d'autant plus important que souvent les acteurs sur le terrain, quand ils parlent de la religion, peuvent avoir des discours extrêmement opposés. Je prends un exemple très concret. Je travaille beaucoup sur le confucianisme. Confucianisme, ça fait un siècle qu'on se bat, enfin que tout le monde se bat en Chine pour savoir si c'est ou, oui ou non de la religion. Et quand on va faire des études concrètement sur le terrain, on aperçoit, on rentre dans des groupes qui vont faire toutes sortes de rituels. Et les uns vont les faire en se réclamant absolument de la religion, et d'autres vont faire exactement les mêmes rituels, exactement les mêmes choses, et vont dire on ne fait certainement pas de la religion, et vont refuser absolument et catégoriquement l'étiquette, alors qu'en fait il s'agit d'exactement les mêmes activités. Donc on est obligé de court-circuiter un petit peu cette catégorie de religion pour aller voir concrètement ce que les gens font, le type de rituel qu'ils font, à quoi ils correspondent, et puis replonger dans ce que tu disais, les descriptions par eux-mêmes des acteurs au-delà de cette catégorie-là, parce qu'ils ont plein bien sûr de termes pour décrire ce qu'ils font.
Je vais abonder dans le même sens. Ça fait peut-être 25 ans que je travaille sur la religion chinoise et on fait du terrain, traduit des textes, etc. Et finalement, je ne suis pas sûr à quel point la colonisation conceptuelle que tu as évoquée s'est vraiment réalisée. C'est sûr que parmi l'élite intellectuelle, les profs qui travaillent là-dessus, eux, ils comprennent tout cela. Mais quand on s'en va en Chine et on pose des questions auprès du peuple concernant la religion, comme tu viens de le dire, souvent ils ne savent même pas poser une question concernant le Menjin Zongjiao. Très souvent, ils n'ont aucune idée du contenu, ils savent que c'est un peu touchy, ils ne veulent pas en parler trop. Mais j'en ai parlé avec les gens qui disent qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que la religion populaire. Mais dans la phrase suivante, ils évoquaient quelqu'un avec un fachu, un gore. Alors, ça fait pas de sens. Et je pense que même au niveau de l'élite, c'est pas sûr. La Chine aimerait ça, être une société complètement laïque, Mais dans une société complètement laïque, est-ce qu'on aurait pu avoir l'engouement pour le Qigong ou la révolution culturelle? En d'autres mots, il y a plein d'espaces où le discours n'est pas tout à fait accepté et compris dans sa totalité, je dirais.
Comme religion, il s'agit d'une catégorie importée, c'était importé avec plein d'autres catégories et en même temps, je pense, je ne sais pas, philosophie, science, enfin, toutes ces catégories bien connues. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a une certaine fluidité dans les catégories. Alors, je prends un exemple très bête, le confucianisme toujours. Le confucianisme, au début du XXe siècle, hormis tous ces débats qui ont essayé de savoir s'il était religieux ou pas, il est devenu très largement, pour beaucoup, une philosophie. Et on a vu des intellectuels, des gens qui auparavant auraient été mandarins et auraient eu des fonctions religieuses dans les territoires qu'ils administraient sous l'Empire, eh bien ces gens-là devenir des profs d'université et faire de leur confucianisme une entreprise purement philosophique. Un exemple sur lequel j'ai un petit peu travaillé, c'est cet exemple de ce philosophe qui s'appelle Mo Zongshan, qui est un des plus grands philosophes chinois du siècle passé, quelqu'un qui a essayé de réinterpréter l'ensemble de l'héritage intellectuel chinois en comparant avec Kant, avec Heidegger, avec Whitehead, etc. Et il a produit, c'est l'archétype de la production d'un confucianisme philosophique. Et ce qui est intéressant quand on va faire aujourd'hui des terrains en Chine, c'est de voir des gens du peuple, Mingtian, reprendre des textes de Mo Zongshan et les lire comme des shanshu, comme des textes religieux. Donc là, vous avez une espèce de fluidité où ce qui appartenait un temps au philosophique appartient désormais aux religieux à travers l'utilisation concrète de ces textes. Des gens qui ne comprennent pas du tout ce dont il s'agit, quand ils ne comprennent rien aux interprétations de Kant ou de Heidegger par Mo Zongshan. Mais ils lisent ces textes comme s'ils lisaient des sutras, comme s'ils lisaient des textes religieux qui, par leur résonance, en fait, les nourrit. Et là, vous avez une fluidité extrême de ces catégories qui nous montre à quel point on doit les tenir à distance.
Moi, je crois qu'il existe une colonisation dans le champ des termes, mais seulement ces sens occidentaux ne sont pas appropriés de manière pareille. Si l'on prend toujours le confucianisme comme un exemple, il y a toujours des gens qui disent que le confucianisme est une religion, mais pour des raisons différentes. Certains le disent parce que ils pensent qu'ils voulaient que le confucianisme puisse avoir le même statut que les autres religions reconnues par l'État. Et pour certains autres, ils disent que le confucianisme est une religion, donc le confucianisme est comme les autres religions, il est destiné à disparaître avec la modernisation. Dans l'autre côté, c'est pareil. Pour certains, si le confucianisme n'est pas une religion, puisque le confucianisme, comme il n'a pas d'église, il n'y a pas des pratiques régulières, etc., donc il n'est pas encore au niveau d'une religion à part entière, mais pour les autres, si le confucianisme n'est pas une religion, justement parce que le confucianisme est plus haut, plus supérieur que la religion, donc, voilà, au-delà de la religion. Donc vous voyez, en fait, on peut même dire que toutes ces définitions sont influencées par les idées occidentales, mais d'une manière très, très, très variée.
Merci. Oui, là, merci beaucoup, avocate. La raison pour laquelle Ling et moi voulions insérer cette petite table ronde juste avant le champagne, et je vous rassure, on ne va pas le laisser réchauffer trop, mais c'était quand même, on se pose en permanence la question de comment parler de tout ça, comment nous, en tant que chercheurs, parler de tout ça, comment les gens en parlent, et comment nous, on peut en parler à des chercheurs et à des gens qui ne sont pas chercheurs. Parce qu'on vous a parlé aussi de cette question de Ling, on a parlé ce matin de la demande sociale, et comment on explique tout ce qu'on vient de vous expliquer à des gens qui ne sont pas des chercheurs et qui ne savent pas tout ce dont on vient de discuter. Hein. Et c'est venu plusieurs fois dans la journée, ce problème-là. Par exemple, en tout début d'après-midi, quand Wang Jing parlait de la procession du 13e arrondissement, Hein, voilà. Il s'agit quand même de sortir les dieux de leur temps pour leur faire faire le tour de leur territoire. Okay, et Martine fait remarquer que quand on parle aux gens en français, ils disent « Ah ben non, c'est pas de la religion ». On a quand même un problème pour expliquer ça. Nous, entre chercheurs, pour l'expliquer nous aux gens, pour comprendre ce que les gens nous disent, voilà, donc, dans tous les sens. Okay. Et voilà, ce qui vient d'être dit montre bien le problème. C'est que quand les Chinois arrivent avec un siècle d'un usage très problématique du terme religion, on va dire, hein, où souvent c'est quand même beaucoup préférable, bien préférable et plus pratique et plus simple de dire que ça n'est pas la religion mais que c'est autre chose. Et là, il y a tout un ensemble de catégories bien pratiques pour ça, culture, tout ce qu'on veut. Et puis ils arrivent dans un pays où l'usage du terme religion est aussi problématique pour d'autres raisons, mais il l'est également. Voilà. Donc, dans tous les sens, et ça, les gens le savent très bien, même s'ils ne comprennent pas l'histoire intellectuelle du terme, l'histoire du concept, on va tous faire de la Begriffsgeschichte, heureusement, mais ils savent que c'est problématique. Voilà. Donc, comment ça se passe? Alors, il y a le discours des acteurs, il y a le discours des institutions, il y a le discours des médias, des publics, et le discours des chercheurs. Alors, je passe les quatre en vue, mais 30 secondes chacun. Le discours des acteurs est très différent quand ils parlent en chinois et quand ils parlent en français. Hein, voilà, donc ça c'est évident. Donc la même personne sur le terrain qui nous parle de ce qu'il fait en chinois et puis en français ne va pas du tout utiliser les. C'est pas une traduction du tout. C'est deux discours différents. Donc ça c'est évident. Les institutions elles-mêmes, dans certains cas, c'est quand même très amusant de voir leur nom chinois, leur nom en français. C'est pas du tout une traduction. C'est deux langages différents. Mais ça, c'est une longue histoire en Chine. Hein. Pour l'interne et pour l'externe, les groupes religieux. Quand on voit beaucoup travailler sur les groupes religieux la première moitié du XXe siècle, la façon dont elles s'enregistrent auprès des autorités, hein, tous les archives, tous les dossiers qu'on a, etc., ils disent très clairement, il y a un nom, pour nous-mêmes, hein, on fait notre salut. Hein, voilà, on veut devenir des dieux, donc on pratique voilà, des rituels de salut, des choses, des machins. Voilà. Pour l'extérieur, on est enregistré en tant que société philanthropique, pour le bien de la société, pour aider les pauvres, pour le progrès social, etc. C'est pas de la duplicité. C'est juste qu'il y a deux identités. Il y a pour nous et pour les autres. L'identité pour nous, si on n'est pas membre du groupe, pourquoi en parler ? Voilà. Donc, il y a, ça, ça a une longue histoire. Les médias et le public. Alors, donc il y a des termes très problématiques qu'on a déjà évoqués. Donc, il y a religion, il y a superstition. Bon, Marc Lebranchu évoquait tout à l'heure l'exposition d'art taoïste au Grand Palais, qui était quand même un moment marquant et important pour nous. J'ai quand même eu des moments assez chauds avec la conservatrice pour lui expliquer que son usage du mot superstition dans les affiches était absolument scandaleux. Elle n'avait pas idée, il a fallu lui expliquer. Le mot secte, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez assez bien de quoi il s'agit. Les groupes dont on a parlé aujourd'hui, on parlera demain, ont assez largement échappé au pire des débats et des controverses autour des sectes, mais pas totalement. Certains groupes, bon, Guanyin Famen, on n'a pas parlé au cours de ce colloque, le terrain n'a pas été vraiment fait, mais malheureusement, mais voilà, il y a eu des controverses. Donc il y a ce problème-là aussi. Il y a le terme bouddhiste qui lui est à l'autre bout du continuum, qui lui est très chargé positivement, mais ce qui pose des problèmes aussi. Alors ce qui fait que par exemple le Iguando se présente comme bouddhiste en France, alors qu'il se présente comme confucianiste à Hong Kong, alors que c'est le même groupe. Bon. Mais ça pose aussi des problèmes. Lionel a publié un très bel article récemment dans les ASSR hein, pour parler de cette contradiction du fait que dans les médias, dans le discours général qui est massif, qui est absorbé, qui est internalisé par les gens, si, le bouddhisme n'est pas vraiment une religion, c'est vraiment une spiritualité de la personne, ça libère la personne, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de choses communautaires, il n'y a pas d'obligation, c'est pour soi, il n'y a pas de Dieu, tout ça, voilà. Donc, et qu'on va... Lionel, hein, enfin, je suis désolé de parler à ta place, mais... On va parler aux gens dans les groupes bouddhistes et ils vous servent ce discours-là. Et puis on regarde ce qu'ils font en même temps, des grands rituels collectifs, des prosternations, des récitations de mantras toute la journée. Voilà. Bien. Donc l'usage du terme bouddhique est également très problématique. Et puis dernier point, le langage qu'on utilise nous en tant que chercheurs. Alors évidemment, on est très conscient de tous les problèmes qui ont été évoqués juste avant. Et donc on utilise d'autres concepts. Alors on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la religion chinoise. Ça, c'est très utile pour expliquer plein de choses. Par exemple, comme on en a parlé il y a 20 minutes, le fait que dans les on a on a plein de taoïsme en France. Simplement, il n'y a pas de taoïste, il n'y a pas de clergé. Les conditions ne sont pas vraiment réunies pour ça. Mais il y a du taoïsme, il y a les dieux taoïstes dans les Huiguan. Hein, donc le dieu principal de la procession du 13e, Xuan Tian Shangdi, qui est peut pas faire plus taoïste que Sun Yat-sen Chang dit. Donc il y a du taoïste, il y a du taoïsme, mais il y a pas, en même temps, il n'y a pas de taoïsme institutionnalisé construit. Le concept de religion chinoise permet d'expliquer tout ça. C'est très pratique. Voilà, il y a un ensemble dans lequel il y a des traditions, il n'y a pas de syncrétisme. Alors encore un autre mot très problématique, c'est pas du syncrétisme. Ce sont des ensembles, ce sont des modes de par lesquels une société gère une pluralité religieuse. Voilà. Donc religion chinoise, c'est très pratique. Il y a les sociétés rédemptrices qui nous ont permis de parler du Guandao, du Falun Gong, de tous ces groupes qui ont une histoire très chargée de répression, d'accusations sectaires, etc. Ça a permis d'en parler d'une autre façon. Maintenant, il y en a encore un autre problème, c'est que religion chinoise, société rédemptrice, etc., quand on parle de ça aux médias, aux politiques, aux acteurs locaux, ils ne comprennent pas du tout. Ils ne voient pas de quoi on veut parler. Et si on essaie d'expliquer, ça devient vite trop long et trop compliqué. Voilà. Donc, c'était autour de ce problème-là, qui n'est pas un peu le problème des acteurs, mais qui est beaucoup notre problème, dont on voulait discuter. Et voilà, et vous avez apporté des choses très riches et formidables là-dessus, donc j'en suis reconnaissant. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions de la salle, si vous en avez encore, et puis ensuite, nous passons aux récompenses.
Oui, merci pour cette réflexion, cette introduction à une réflexion plus générale. Moi, je me rappelle, ici, il y a plusieurs années, quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom a évoqué l'invention de l'hindouisme en Inde,
oui.
De cette unité à partir de différentes, tellement différentes pratiques. Les bras multiples de Marc. L'invention de l'hindouisme comme une unité, si tu veux, à partir de différentes pratiques. Et l'appropriation par les gens en...
Ouais, c'est pas lui, il n'est pas allumé. En bas.
Bon. Je parlais déjà sans micro. Et l'appropriation par les gens qui pratiquent en Inde aussi de ces choses-là, quand même. Bon, donc, l'invention... Elle a beau apparaître comme artificielle, peut-être, mais à un moment donné, elle est appropriée quand même par le public qui pratique.
Elle a des effets massifs, bien sûr.
Et bon, ça, c'est quand même une chose importante. Et donc, l'importation d'un concept à partir du Japon ou d'autre chose, et ben, les gens se l'approprient. Ils s'approprient cette notion en la transformant plus ou moins. Et je dirais que ça peut valoir aussi pour, en Europe même, entre des univers culturels ou religieux très différents. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est pas les mêmes religions, entre guillemets, mais en même temps, ça se rapproche parce qu'on est influencé par le milieu, le contexte chrétien, quoi, voilà. Donc, et avec la constitution d'un clergé, sur le modèle chrétien, etc. Donc, voilà, il y a des transferts comme ça. Après, la question de l'unité, ce que vient de dire Vincent me fait penser que la question posée par Gilles me fait penser qu'il y a donc des traits culturels qui seraient propres à la Chine, à toute la Chine, je ne sais pas, et qu'il faudrait donc mettre en avant comme tel, c'est-à-dire, voilà, par-delà la diversité. Et je pense que moi qui suis une profane sur le sujet, qui voit beaucoup, avec beaucoup d'exotisme tout ça, qui essaye de m'approprier ces choses-là, donc je me dis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on m'explique cela, en disant, voilà, ce qui est commun entre les taoïstes, les bouddhistes, les ceci, les cela, ceux qui ont leur divinité locale, etc., c'est cela, ce qui est commun, c'est ça. Et en ce sens-là, on peut parler d'une unité de la religion chinoise, mais c'est une construction de chercheurs, évidemment.
Oui.
Et une dernière chose, j'ai fait une remarque à Jidze tout à l'heure, quand il y avait le film sur le Nouvel An chinois, là, avec les gens qui touchaient la divinité, tu disais. Eh bien, moi, je disais, c'est moi, comme de culture monothéiste européenne, je disais, mais c'est des idoles. Ça me rappelle Abraham qui brisait ses idoles, si je peux dire. Et donc, elle parlait de divinité. On ne peut pas parler d'idole comme on ne pourrait pas parler de superstition aussi en tant que chercheur. Quoi, voilà. Grande idole, des statues.
Après, on va toucher les statues des saints dans les églises. Hein.
Oui.
Oui, mais alors, tu sais, dans les synagogues, on touche les rouleaux de la Torah parce que ça va apporter quelque chose.
J'espère
dans
bien.
Dans les églises, on touche quelque chose. Évidemment, bien sûr. C'est commun, c'est vrai. Sauf que l'idole.
Encore une question ?
On a épuisé tout.
Ou la soif, là, encore.
Ça arrive là ? Ouais, on a épuisé.
Merci beaucoup.
Merci à toi.